Nous poursuivons aujourd'hui notre étude sur le survol des 66 livres de la Bible. Nous sommes rendus à la leçon sur Osée, le livre de Osée. Alors, on va travailler de la manière habituelle. On va d'abord regarder l'arrière-plan du livre, son but principal, le plan du livre d'Osée, les thèmes majeurs qu'il y a dans le livre, les personnages clés, les versets clés et les leçons pour le peuple de Dieu d'alors et aussi d'aujourd'hui. Et nous allons regarder également la place et la présence de Jésus-Christ dans le livre de Osée. Alors, on va regarder le premier point, l'arrière-plan du livre d'Osée. Alors, le pasteur Garrett Crossley, dans son manuel intitulé « Survol de l'Ancien Testament, volume 3 », présente le livre d'Osée avec ces mots, je le cite. « Le livre d'Osée est l'un des plus difficiles de tout l'Ancien Testament. Il est avant tout destiné à ceux qui se relâchent spirituellement. Si la parabole du fils prodigue décrit Dieu comme un père plein d'amour qui soupire après le retour de son fils égaré, comme on peut le voir dans Luc 15, versets 11 à 24, le livre d'Osée le décrit comme un mari qui soupire dans son amour après le retour de son épouse infidèle. Les pages du livre brossent un tableau vivant des méthodes que Dieu utilise pour ramener à lui son peuple infidèle. Dès les premiers versets, le lecteur se trouve face à des problèmes de taille qu'il ne peut pratiquement pas résoudre. Dieu ordonne à Osée d'épouser une prostituée. Beaucoup de personnes pieuses et attachées à l'Écriture en ont déduit qu'il ne pouvait s'agir d'un fait réel, mais plutôt d'une vision, d'une analogie ou d'un symbolisme que Dieu présentait au prophète Osée. Tout en reconnaissant que la prophétie se présente comme un récit classique et qu'à première vue, nous devons comprendre ces événements comme s'ils étaient réellement, comme s'ils s'étaient réellement déroulés. E.J. Young, qui est un spécialiste respecté de l'Ancien Testament, déclare cependant qu'il est de plus en plus convaincu que tout cet épisode revêt une signification symbolique. Calvin aussi refuse de croire que les faits soient réels. Il explique son point de vue en disant qu'en prenant une prostituée comme femme, le prophète se serait rendu méprisable et répréhensible dans son service pour Dieu. Les sacrificateurs n'avaient pas le droit d'épouser une prostituée. Lévitique 21, verset 7 et verset 14. Mais Osée n'était pas sacrificateur. Sous la Nouvelle Alliance, Dieu n'aurait pas pu exiger pareille chose d'un responsable d'Église, car il faut que l'évêque soit irréprochable, qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Qu'on peut le lire dans 1 Timothée chapitre 3, versets 2 et 7, et dans Tite chapitre 1, verset 7. Pourtant, malgré le malaise que nous éprouvons à la pensée que cet ordre ait pu être réel, la lecture simple et honnête du texte aboutit tout naturellement à la conclusion que Dieu ordonna à Osée d'épouser une femme de petite vertu pour symboliser la relation de Dieu avec Israël. Sur le plan méthodologique, il est dangereux de rejeter cette lecture à cause d'un commandement que nous considérons moralement problématique, ce qui d'ailleurs est encore approuvé. En effet, en dehors du cas des sacrificateurs, Dieu n'interdit jamais le mariage avec une prostituée. même s'il suscite de nombreux problèmes d'éthique compliqués. Le message du livre est indiscutable. Que ce soit une histoire réelle, une vision ou une allégorie, Dieu se sert du mariage d'Osée avec Gomère pour exprimer son dégoût de l'infidélité d'Israël et son amour intense pour son peuple. Alors l'auteur, le nom Osée signifie « salut ». Il est le fils de Béri et il est l'auteur du livre qui porte son nom. Il était un prophète durant la période du déclin et de la chute du royaume du nord d'Israël, aussi connu sous le nom de Samarie. Osée était marié et père de 3 enfants. La date de composition. Osée commença sa carrière prophétique durant le règne du roi d'Israël Jéroboam II, de 793 à 753 avant Jésus-Christ. Son ministère s'étend sur une période de plus de 40 ans, jusqu'à la chute et à la déportation de Samarie aux mains des Assyriens en 723 avant Jésus-Christ. Troisième chose qu'on va regarder, la période historique et le cadre. Bien qu'Osée ne mentionne qu'un seul roi d'Israël, sa référence à 4 rois de Juda situe son ministère sous les règnes des 7 derniers rois qui gouvernent Israël, d'environ 750 à 740 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire depuis Jéroboam II, l'un des rois les plus puissants, jusqu'au roi Osée. Alors, pour ceux qui ont téléchargé les notes, j'ai inclus un tableau qui situe la période où Osée aurait composé ce livre. Alors, on voit les rois d'Israël, on voit aussi les prophètes. Et alors, ça donne une idée générale par rapport à l'ensemble des choses qu'il y avait à son époque. Alors, contemporain d'Ésaïe, de Michée et peut-être d'Amos, Osée exerce principalement en Israël un ministère qui s'étend sur de nombreuses années. Il prophétise sous les rois de Juda Osias, Jotham, Achaz et Ézéchias. Ses règnes couvrent une période d'au moins 40 ans. Certains commentateurs suggèrent même un ministère de 72 ans. Le ministère d'Osée suit celui d'Amos, avec un possible chevauchement des deux. Sous le roi Osias, également appelé Azaria, le royaume de Juda connaît une période de prospérité. Le royaume d'Israël, sous Jéroboam II, connaît lui aussi la prospérité économique et les succès militaires. Mais les victoires et l'opulence s'accompagnent d'autres problèmes, comme le paganisme, le matérialisme, la cupidité, l'immoralité et l'injustice. Après la mort du roi Jéroboam II, Israël tombe dans un déclin rapide. 6 rois occupent le trône au cours des 30 dernières années du royaume. Osée ne les mentionne pas nommément. Les prophètes d'Israël ne reconnaissaient que la légitimité des rois de Juda, qui, à leurs yeux, étaient les vrais rois du peuple de Dieu. Cela peut expliquer pourquoi l'Éternel désapprouve les rois du Nord. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs sans se référer à moi. 3 de ces règnes, de ces rois, règnent 2 ans ou moins et 4 sont assassinés. Moins de 10 ans après la mort de Jéroboam II, la Syrie commence à montrer sa puissance militaire qui ne cesse de s'accroître et devient menaçante sous le roi Tiglath-Pileser III. Son successeur, Salmanazar V, lance ses troupes contre Israël. Le royaume des dix tribus du Nord est vaincu et ses habitants déportés en captivité en Assyrie en 723 avant Jésus-Christ. La menace assyrienne sert de toile de fond au livre d'Osée. Aucun roi d'Israël ne peut mettre fin à la corruption qui gangrène le royaume. L'immoralité découle de l'idolâtrie. En se détournant du Dieu vivant, les Israélites ont quitté le fondement de la vraie moralité. Si le roi d'Israël avait aboli le culte du veau, il aurait menacé l'existence même de son royaume. Si la division religieuse entre les royaumes d'Israël et de Juda avait cessé, les 12 tribus auraient rapidement retrouvé leur unité politique. Né d'une rébellion contre la maison royale de David, que Dieu lui-même avait établie, le royaume du Nord portait en lui l'esprit de rébellion et de révolution, et par voie de conséquence, les germes de sa propre destruction interne. On va regarder le deuxième point, le but principal du livre. Le livre d'Osée met l'emphase sur l'importance de l'Alliance et les conséquences de son bris par Israël. Osée est une fenêtre sur le cœur de Dieu. Le désir d'Israël de rechercher d'autres dieux et ses manœuvres politiques sont de l'adultère spirituel et brisent le cœur de Dieu. La fidélité d'Osée envers son épouse infidèle est une illustration de l'engagement de Dieu envers son alliance et sa bien-aimée. Le livre d'Osée anticipe le jugement de Dieu contre Israël pour avoir brisé l'alliance. Le prophète appelle le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, à la repentance et à renouveler sa relation avec Dieu. Le troisième point, j'ai mis pour ceux qui ont téléchargé ou qui ont en leur possession les notes du sermon. Alors, dans le point 3, vous avez le plan du livre. On a un qui est succinct, donc très, très rapide, très court, très, très peu détaillé. Et un deuxième qui est le même plan du livre, mais avec plus de détails. Alors, je laisse les gens qui vont étudier ou lire le livre, qui veulent avoir une idée globale de l'ensemble du livre, de relire ces plans-là avant d'étudier ou de lire le livre, ce qui est de grand secours pour comprendre le livre. Alors, vous avez les deux, le plan succinct et le plan détaillé avec les indications de quel chapitre, de quel verset, et tout cela se trouve de façon très détaillée. Le quatrième point, c'est vraiment les thèmes majeurs qu'on trouve dans le livre d'Osée. Alors, on les nomme. La désobéissance nous sépare de Dieu. Autre thème, Dieu juge et punit la désobéissance. Troisième thème, Dieu est fidèle et son amour est éternel. Quatrième thème, Dieu nous appelle à la repentance. Cinquième thème, Dieu promet la rédemption et la réconciliation. Sixième thème, les péchés d'Israël sont décrits. Et là, je vais les nommer. Éphraïm est attaché aux idoles. Chapitre 4, verset 17. Éphraïm se mêle avec les peuples. Chapitre 7, verset 8. Éphraïm est un gâteau qui n'est pas retourné. Chapitre 7, verset 8. D'un côté, il n'est pas cuit. De l'autre, il est brûlé. C'est l'image d'un cœur partagé. Quatrième péché, la vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas, pour indiquer un vieillissement prématuré et une détérioration inconsciente. Cinquième péché, des étrangers consument sa force. Chapitre 7, verset 9. La nation est affaiblie par ses alliances coupables. Ensuite, un autre péché, Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Verset 11, chapitre 7. Israël vole ici et là, à la recherche d'un secours, vers l'Égypte, la Syrie, mais jamais vers le Dieu vivant. Autre péché, Israël est englouti, verset 8 du chapitre 8, il a perdu son identité nationale. Autre péché, il est comme un vase qui n'a pas de prix. Il est inutile pour le service de Dieu. Autre péché, c'en est fait de son roi comme de l'écume à la surface des eaux, verset 7 du chapitre 10, emporté par le courant, il disparaît sans laisser de traces. Et dernier péché, Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Donc, le verset 8 du chapitre 12 qui est vraiment une allusion aux manœuvres commerciales frauduleuses qui se pratiquaient couramment à l'époque. Alors, les personnages clés, bien entendu, c'est assez simple, c'est Osée, Gomer et leurs enfants. On va regarder maintenant quelques versets clés. Osée, chapitre 2, verset 23. « Je planterai pour moi l'orukama, qui veut dire celle dont on n'a pas pitié dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'eau ami, dont le nom signifie pas mon peuple, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. » Osée, chapitre 6, verset 6, « Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Osée, chapitre 11, verset 1, « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Osée chapitre 14, verset 4, « Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. » On est rendu au septième point. On va regarder les leçons pour le peuple de Dieu d'alors. Alors, Dieu est fidèle à son alliance, malgré le fait qu'Israël l'a brisée. Dieu les appelle à la repentance. Cependant, le peuple s'obstine et s'enlise dans ses nombreux péchés. Mondanité, malhonnêteté, idolâtrie, immoralité, cœur partagé, confiance en la puissance des nations, etc. Malgré leur infidélité, Dieu maintient un reste par lequel il enverra son Fils, le Messie. Maintenant, les leçons pour le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Dieu n'abandonne jamais les siens. Il continue de nous appeler à la repentance et à nous encourager à lui faire pleinement confiance en toutes choses et en tout temps. Nous devons éviter la confiance en nous-mêmes, en nos familles, en notre argent, pour assurer notre protection ou pour notre soutenance, parce qu'en ce faisant, nous sombrons dans l'adultère spirituel. Nous devons apprendre à se confier pleinement en lui. Huitième point, on va regarder la place et la présence de Jésus-Christ dans le livre. Alors, mise en valeur dans le Cantique des Cantiques, le beau thème de l'amour et du mariage qui illustre les relations de l'Éternel et d'Israël, de Christ et de son Église, est soumis à une rude épreuve et traverse des jours sombres dans le livre du prophète Osée à cause de l'infidélité de l'épouse à son alliance. Mais tout en dénonçant fermement l'infidélité, le mari montre par sa profonde tristesse l'agonie de Dieu dans son amour pour les pécheurs. Voici la signification symbolique que William Hendrickson voit dans le livre d'Osée. Comme Osée épouse Gomer, l'Éternel devient le mari d'Israël. Comme Gomer est infidèle à Osée, Israël l'est envers Dieu. Comme Gomer est asservi à ses amants, les Israélites le seront aux nations en qui ils ont placé leur confiance. Comme Osée reprend Gomer, Dieu reprendra le reste d'Israël. Comme pour reprendre Gomer, Osée doit la racheter par de l'argent et de l'orge, Christ rachètera le véritable Israël au prix de son propre sang. Osée prend Gomer alors qu'elle se vautre encore dans son péché. Son Rédempteur la lave entièrement, la purifie et la revêt de beaux habits. L'Éternel la prend pour être sienne. Mais la femme abandonne son premier amour. Elle porte ses envies vers ses amants, c'est-à-dire vers d'autres dieux. Le Seigneur ne l'oublie pas. Il la rachète et la restaure. La souffrance de Dieu atteindra son point culminant au calvaire. Alors, on va regarder les prophéties maintenant qui sont contenues dans le livre. Alors, on a vraiment la mention de « appeler hors d'Égypte ». Alors, la prophétie d'Osée mentionne un deuxième exode. Dieu accordera sa délivrance une fois encore. Les Israélites doivent faire de nouveau l'expérience de l'oppression et de l'esclavage, car ils ont oublié la bonté et la fidélité de Dieu quand il fit sortir leur père de l'Égypte. Ils sont ingrats. Dieu leur avait témoigné son amour en ce temps-là, comme il est écrit, « Quand Israël était jeune, je l'aimais. » Chapitre 11, verset 1. Le premier exode fut comme la naissance de la nation. Dieu a aimé le peuple même avant sa naissance en tant que nation. Son amour pour Israël était tel qu'il appela la nation hors d'Égypte. Et j'appellerai mon fils hors d'Égypte. Verset 1 du chapitre 11. Cette prophétie eut son premier accomplissement dans le cas d'Israël comme type de Christ. Mais elle trouve son accomplissement définitif dans la vie du Seigneur Jésus. Matthieu applique ses paroles au Sauveur dans Matthieu 2, chapitre 15, verset 15. Calvin commente ainsi. « Il n'y a aucun doute que Dieu, dans sa merveilleuse providence, voulut que son Fils sortît d'Égypte pour être le Rédempteur des fidèles. Il montre ainsi qu'il avait enfin apporté une délivrance vraie, réelle et parfaite avec la venue du Rédempteur promis. L'Égypte représente l'esclavage spirituel. Christ est venu s'identifier aux esclaves pour les délivrer et les faire sortir. Christ est le Fils de Dieu dans un sens très différent de celui appliqué à Israël. C'est l'adoption qui a fait des enfants d'Israël les enfants de Dieu. Mais c'est par nature que Christ est le Fils unique de Dieu. Une autre différence se voit dans l'ingratitude d'Israël envers Dieu, alors que celle-ci n'a jamais effleuré l'esprit du Sauveur. Les types bibliques font ressortir aussi bien les ressemblances que les différences. Aucun type n'est parfait, car une grande différence sépare toujours la réalité de ses symboles. On va regarder maintenant le rejet et le rétablissement d'Israël. Osée annonce le rejet imminent, puis le rétablissement d'Israël, mais il prédit également l'état de la nation d'Israël à partir de l'an 70 de notre ère. Dans le verset 4 du chapitre 3, il dit « Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue, sans éphod et sans téraphim. » L'apôtre Paul voit chez Osée l'annonce de l'appel adressé aux nations païennes. On lit par exemple dans Romains chapitre 9, versets 22-26. « Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. » Et là où on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » À première vue, on pourrait penser qu'il y a un désaccord entre les paroles du prophète et l'interprétation que Paul en donne. Osée vise les tribus d'Israël et non les nations païennes. Paul reconnaît que le rejet et le rétablissement d'Israël dont Osée parle trouvent un parallèle dans l'exclusion des païens de la faveur divine, une exclusion suivie d'un retour en grâce. L'apôtre Pierre aborde aussi ce thème dans 1 Pierre chapitre 2 verset 10. « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Certes, Pierre applique la prophétie d'Osée à des chrétiens d'origine juive, alors que Paul voit les implications plus globales de la création d'une Église composée de convertis juifs et païens. Mais l'usage que Pierre et Paul font de ce passage montre que pour eux, la prophétie de l'Ancien Testament s'est réalisée en Christ et en son Église. Autre point qu'on va regarder, la résurrection de Christ et de son Église. Alors, quand on regarde dans le verset 2 du chapitre 6, nous lisons « Il nous a rendu la vie dans deux jours, le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » Il existe un lien merveilleux entre la résurrection du Fils de Dieu et celle de son peuple. Le Seigneur n'est pas ressuscité dans son propre intérêt seulement, mais aussi dans celui de son peuple. Il est les prémices de ceux qui sont morts, comme ça dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. Osée encourage ici les fidèles à cultiver l'espérance du salut, parce que Dieu ressuscitera son Fils unique et que sa résurrection sera la vie normale de toute l'Église. Une autre prophétie marquante d'Osée évoque la grande résurrection, dans le chapitre 13, verset 14. « Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. » Le rachat désigne la délivrance par le paiement d'une somme d'argent, la rançon. Dans l'Ancien Testament, le Rédempteur était le proche parent qui qui avait le droit de racheter les biens d'un parent acculé à la faillite. Les deux mots, dans leur sens le plus exact, décrivent ce que Jésus a fait pour nous. L'apôtre Paul cite cette prophétie et indique comment elle s'accomplira. À cause des souffrances du Sauveur sur la croix, le jour vient où les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 52. Après sa victoire sur la mort et sur le séjour des morts, le Seigneur abolira définitivement la mort. Chapitre 15, versets 54 et 55. Le triomphe de Christ dans sa mort et sa résurrection est le sceau de la résurrection du croyant au grand jour de l'Éternel. Chapitre 15, verset 23 et les versets 56 et 57. Sur le chemin qui le conduisit au lieu du supplice, le Seigneur Jésus rappela une autre prophétie d'Osée, dans le chapitre 10, verset 8. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus, se tournant vers elles, et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici les jours viendront où l'on dira, « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. » Comme on peut le lire dans, au chapitre 23 de Luc, les versets 27 à 30. Mais dans les circonstances les plus éprouvantes, le Sauveur fait preuve d'un altruisme remarquable. Il met les femmes en garde contre le malheur imminent. En citant les paroles d'Osée, il indique qu'Israël connaîtra une dévastation comparable à celle qui frappa le peuple du temps du prophète. La prophétie eut son premier accomplissement avec l'invasion assyrienne et la déportation des Israélites. Le Seigneur Jésus prédit une deuxième calamité, l'invasion prochaine des Romains et la destruction de Jérusalem en l'an 70. Mais la prophétie aura un troisième accomplissement au jour du jugement. Ce jour-là, les méchants crieront aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous !» Cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, comme on peut le lire dans Apocalypse, chapitre 6, versets 16 et 17. Lorsque Dieu viendra pour juger, les incroyants préféreront mourir plutôt que d'affronter son effrayante colère. Alors, on va regarder quatre applications. La première, le livre d'Osée nous apprend beaucoup de choses sur notre grand Dieu. Il est fidèle malgré nos infidélités. Cependant, il ne laissera pas le péché impuni et il fait souvent preuve de grande sévérité. Deuxième application. Apprenons aussi sur notre misère, notre faiblesse et notre fragilité. Implorons le Seigneur de ne pas être sourd à ses avertissements et à ses appels à la repentance. Troisième application, louons le Seigneur à cause de sa vérité. Il accomplit infailliblement son alliance et ses glorieuses promesses. Dernière application, le livre d'Osée parle de Christ. Découvrons toutes ces merveilleuses révélations pour notre plus grande édification et un plus grand amour de sa personne et de son œuvre. Que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient bénis, loués et adorés à tout jamais. Amen.